remercions pour ta sainte présence au milieu de nous. Nous sommes venus pour te rencontrer et pour glorifier Dieu notre Père. Nous implorons ta riche bénédiction sur nous, afin que ces moments soient vraiment des moments où tu nous parles par ton Esprit Saint, où tu viens nous fortifier, nous renouveler, nous encourager à devenir les personnes que tu veux que nous soyons. Car tu as un plan, Seigneur, pour chacun, et tu désires que ce plan s'accomplisse. Puissions-nous nous aussi désirer que ton plan s'accomplisse dans notre vie. Seigneur, inspire ces quelques paroles. Donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation et l'esprit d'obéissance à ta voix, afin que ce qui sera dit soit fait sous ton onction sainte et selon les besoins des cœurs et pour la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur, notre attente est en toi, maintenant encore, et que tout te glorifie dans nos vies et par nos vies, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Comme c'était une réunion pour les hommes, alors je me suis demandé ce qu'on pouvait dire aux hommes. Et en réfléchissant un petit peu, il y a ce verset que vous connaissez dans 1 Corinthiens 16, verset 13, qui dit ceci. 1 Corinthiens 16, 13, « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des... » Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ?« Des hommes, fortifiez-vous. » « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. » La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des hommes. Malheureusement, parfois, on peut être un homme, et avoir encore des réactions d'enfants et pas toujours les bonnes réactions d'hommes. Et juste un peu avant, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, voici ce que Paul dit. Quand il dit « Soyez des hommes », c'est comme s'il avait déjà dit avant, au verset 11, 1 Corinthiens 13, 11, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Autrement dit, si nous voulons être des hommes, comme l'apôtre Paul le veut, nous devons faire disparaître ce qui est de l'enfant. Car lorsque nous sommes des hommes, eh bien, ça se voit, il y a des qualités, il y a un état d'esprit, il y a quelque chose qui change de l'enfant, n'est-ce pas vrai? Et en méditant un peu sur cette matinée, un jour j'avais lu cette pensée, les hommes cherche de nouvelles méthodes, mais Dieu cherche de nouveaux hommes. Soulignons bien cette pensée-là, elle est importante. Les hommes cherchent toujours de nouvelles méthodes, mais Dieu cherche de nouveaux hommes. Et si nous ne faisons pas attention, on peut perdre notre temps à chercher de nouvelles méthodes pour que ça marche mieux, pour que ça aille mieux, pour que les choses changent. Et en définitive, il n'y a rien qui change. Même si au début, ça a changé un petit peu, ça ne change pas parce que nous ne sommes pas de nouveaux hommes. C'est quand on est de nouveaux hommes que les choses peuvent changer. Amen. Il y a là donc là une pensée très importante pour chacun d'entre nous. Les hommes cherchent de nouvelles méthodes, mais Dieu, de nouveaux hommes. C'est toi, c'est moi que Dieu veut utiliser. Pas tellement des méthodes, parce que les méthodes viennent et disparaissent, n'est-ce pas vrai ? Hein ? Pendant un temps, c'est telle méthode, et puis après, ça disparaît. Et puis après, c'est une nouvelle méthode, et ça disparaît. Et après, encore une autre méthode, et ça disparaît. On bâtit sur des méthodes, mais on ne bâtit pas sur des hommes. On passe beaucoup de temps à trouver de nouvelles méthodes, alors que Dieu cherche de nouveaux hommes. Ce n'est pas en dehors de nous que Dieu cherche, mais c'est en nous. Nous avons toujours tendance à regarder l'extérieur. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Oui. Mais en dehors de nous, Dieu dit, non, tu n'as pas besoin d'aller. Ce n'est pas là-bas qu'il faut regarder, c'est en toi. C'est toi que je veux changer. C'est toi que je veux. Je veux que tu fasses disparaître ce qui est de l'enfant et je veux que tu sois un homme. C'est ce que Paul voulait dire, n'est-ce pas vrai ? Et alors, j'ai noté ici, on ne va pas trop méditer peut-être dans les pensées, mais plusieurs tests de maturité spirituelle. Ce sera comme un petit examen. Je sais, on n'aime pas bien les examens. Moi, le premier. Mais un petit test pour voir où nous en sommes, si nous sommes encore enfants, ou si nous sommes encore des hommes. Ou si nous sommes des hommes, pas encore. Si nous sommes encore enfants, si nous sommes des hommes. C'est tout simple. Je crois que parfois, nous avons besoin de voir où nous en sommes. Car tant qu'on ne fait pas un examen de soi-même, on n'arrive pas à grandir. On ne sait pas ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer. Les choses secondaires deviennent prioritaires, les choses prioritaires deviennent secondaires, et au bout d'un certain temps, c'est la confusion dans notre vie spirituelle. On ne grandit pas vraiment, on avance, c'est vrai, mais on avance en rond. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'avance. On a l'impression d'avancer, mais on ne se rend pas compte qu'on tourne en rond. On doit avancer, mais tout droit, là. Selon la parole de Dieu, c'est tout droit qu'on a avancé et pas en rond. On avance tous. Est-ce que tu tournes en rond ou tu vas tout droit ? Voyez-vous, il y a des examens de conscience. Et avec le Seigneur, c'est très important. Et c'est ce que Paul voulait dire un petit peu maintenant. Je raisonnais avant comme un enfant. Maintenant, je ne dois plus raisonner comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, c'est fini. Soyez des hommes. Soyez fermes dans la foi. Alors, quelques tests. Un enfant, on va prendre un peu l'exemple d'un enfant et puis après on va prendre le contraire pour voir la qualité d'un homme. C'est tout simple. Mais ça peut beaucoup nous aider. Être la personne que Dieu veut que nous soyons. Un enfant, j'ai noté ici, est égoïste et ne pense qu'à ses intérêts. Vous êtes d'accord ? Un enfant, c'est un enfant, il ne pense qu'à lui-même. Il est égoïste et ne pense qu'à ses intérêts. C'est rare quand on voit un enfant, tout enfant, hein, qui pense aux autres, qui ne pense pas à soi. Et un homme, c'est quoi alors ? Eh bien, c'est le contraire. Un homme, c'est celui qui ne pense pas à lui-même, mais qui pense aux autres et qui cherche la gloire de Dieu dans sa vie. Voilà, rien que là, on pourrait faire un message là-dessus. Si on pouvait s'attarder, on pourrait faire un message sur cette première pensée. Un enfant est égoïste. Il ne pense qu'à ses intérêts. Alors, réfléchissons, réfléchissez. Est-ce que je manifeste encore ce raisonnement, ces sentiments d'un enfant, où je ne cherche finalement dans tout ce que je fais que mes intérêts. Je ne pense qu'à moi. Malheureusement, ça existe. On peut avoir des cheveux blancs et ne penser qu'à soi. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est toujours centré sur soi-même. Vous savez, le moi est toujours là, n'est-ce pas ? On doit le crucifier, comme il est dit. Et si on ne le crucifie pas, il réclame ses droits. Et c'est nous qui devons lui dire, toi, tu te tais.
quelqu'un d'autre règne en moi et c'est sa volonté que je dois faire. Un enfant est égoïste. Il ne cherche que ses propres intérêts. Tandis que l'homme, maintenant, c'est passé. Il y a une progression, il y a une maturité qu'elle a. À un moment donné, vous devez vous dire, on doit se dire, maintenant c'est fini. Je cesse de penser à moi-même, ou je cesse de demander aux autres de toujours penser à moi-même, de faire tourner les autres constamment autour de soi-même, pour dire à partir de maintenant c'est fini. Le centre, ce n'est plus moi et mes intérêts. Je veux rechercher les intérêts du Seigneur et les intérêts de ceux qui m'entourent. Si on a bien saisi cela et qu'on le met en pratique, je vous assure, on n'est déjà plus la même personne. N'est-ce pas vrai? Beaucoup de problèmes dans les églises proviennent de quoi? De ce que chacun ne pense qu'à soi. N'est-ce pas vrai? Et dans les couples, c'est la même chose. Quand il y a un problème dans un couple, c'est que les deux ne pensent qu'à eux-mêmes. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté. L'égoïsme, il n'y a rien de tel pour détruire une vie, un couple, et même une église, si on ne fait pas attention, où chacun ne pense qu'à soi, continuellement. L'homme conjugue de cette façon. Je, tu et il. Mais la conjugaison divine est différente. C'est il, tu, je. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. D'abord Dieu, ensuite le prochain et après toi. Mais pour beaucoup, c'est exactement le contraire. D'abord moi, mi. Et les autres, tant pis. Moi. Il y avait en France, il y a quelques années, un grand homme qui aimait beaucoup le mot « année ». Je ne sais pas pourquoi il aimait le mot « année », parce qu'il y avait 12 mois dedans. 12 mois. Et c'était en effet un homme très égoïste, un grand homme. Un artiste, enfin quelqu'un qui était très connu. 12 mois. Un enfant est égoïste. Il ne cherche que ses intérêts. L'homme, soyez des hommes, dit l'apôtre. Maintenant, ça va, ça suffit. Ce n'est plus nos intérêts, mais c'est les intérêts du Seigneur. C'est commencer un peu à penser aux autres. Et vous savez, un égoïste, vous l'avez remarqué, vous n'arrivez jamais à satisfaire un égoïste. Plus vous lui en donnez, plus il en veut. Vous avez remarqué cela? Un égoïste, vous n'arriverez jamais à le satisfaire. C'est pourquoi celui qui vit que pour lui-même, il n'est jamais heureux. Il n'est jamais satisfait. Ah, il est heureux sur le moment. Oh, merci, merci. Oh, merci, ce beau cadeau. Oh, merci. 5 minutes, même pas, quelques minutes après, c'est terminé. Il recommence à réclamer autre chose. Et c'est ainsi, à l'infini. À un moment donné, il faut briser ce cercle-là. Devenez des hommes, a dit l'apôtre. Nous devons tous abandonner ce raisonnement humain d'enfant, ces pensées d'enfant, et maintenant dire, c'est fini. Je ne cherche plus ce que je veux. C'est la prière du Seigneur, finalement. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Certains chrétiens, c'est la prière à l'envers. Non pas ce que tu veux, mais ce que je veux. Et ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils font cette prière-là. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes que c'est toujours le « je » qui vient en premier. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À un moment donné, il doit y avoir cette, j'allais dire comme une crise, dire maintenant c'est fini. c'est fini, c'est terminé, qu'on tourne toujours autour de moi, que mes caprices se font, que voilà, toujours moi, mes intérêts, mes désirs, mes pensées, à un moment donné, ça doit être brisé. On doit devenir homme. Maintenant, c'est fini. Je vais me tourner vers les autres. Car un égoïste, vous n'arriverez jamais à le satisfaire, jamais. Vous lui donnez le monde entier, ça ne lui suffit encore pas. Il voudra aller dans un autre monde. Ben, envoyez-le sur la lune, parce qu'il est sur la lune, celui-là. Il veut un autre monde, on va le mettre sur la lune. Il n'a pas besoin d'y aller, il y est déjà. Puisqu'il veut un autre monde, il est déjà sur la lune. Parce qu'il n'est pas dans la réalité, n'est-ce pas vrai? Il n'est pas dans la réalité des choses. Ce sont des pensées très simples, mes amis, mais extrêmement importantes. Et il ne faut pas que ça rentre ici, que ça sorte là. Seigneur, je ne veux plus chercher mes intérêts, mais tes intérêts. Je bannis cet égocentrisme-là, où tout doit tourner autour de moi. Bon, deuxième test. On va aller un peu plus loin, sinon j'en ai noté plusieurs, hein, au moins 20. Un enfant est conduit par ses sentiments. Quand il va bien, vous lui donnez un petit cadeau. Merci, extraordinaire. Quand vous lui faites ses petits caprices, voyez, il est tout content. Et quand il n'a rien, quand les choses ne vont pas comme il veut, plus personne. Alors c'est donc un chrétien, si tu voulais, qui monte et qui descend. Les sentiments, c'est ça, vous êtes d'accord avec moi? Un jour, on se sent bien, le lendemain, au fond de la vague. Autrement dit, c'est un chrétien, comment? Ça vous rappelle quoi, ça, comme ça? Bon, il y a les vagues, ça nous rappelle les vagues, mais je pense à autre chose. Qui pique un petit peu, qui mord un peu. Non, oui, il y a ça, mais encore autre chose. Dents de scie. Un chrétien a dents de scie. Un jour en haut, un jour en bas. Et vous savez, si vous êtes un chrétien, si vous rencontrez quelqu'un qui est dents de scie, quand vous approchez de ces gens-là, la scie, elle vous pénètre aussi. Certains, quand vous les approchez, vous sentez la bonne odeur du Seigneur. Mais d'autres, ça vous... Il y a quelque chose qui vous pénètre et qui ne vous fait pas toujours du bien. Un chrétien dents de scie. C'est un enfant, il vit que par ses sentiments. Ah, aujourd'hui, il fait beau. Vous le voyez très, très souriant. Le lendemain, il pleut. Il n'y a plus rien du tout. Plus rien. Oh non, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Il y a beaucoup de chrétiens. Quand ils en ont envie, quand ils sont bien disposés, ils bouleverseraient le monde. Mais attention, quand ils sont mal lunés, puisqu'on est dans la lune, quand ils sont mal lunés, mal disposés, vous ne pouvez rien faire. Terminé. Oh, surtout. Autant ils étaient avant, autant après. Vous voyez les deux extrêmes. C'est un sentimental. Un enfant est conduit par ses sentiments, n'est-ce pas vrai? Vous le voyez, hein, vous l'observez, vous avez eu des enfants. Des enfants, c'est ça. Et quand ça ne va pas comme il veut, oh là là, hein, pour l'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas vivre de sentiments. Comme je le dis souvent, si vous vivez de sentiments, le sentiment souvent, le sentiment, sentiment souvent. Alors vous ne pouvez pas vivre de sentiments. Il n'y a rien de stable. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut bâtir. Le sentiment, souvent, l'homme, le chrétien mature, adulte, il vit par la foi. Et non par les sentiments. Et c'est là la grosse différence entre un homme et un enfant. C'est toute la différence entre un chrétien thermomètre et un chrétien thermostat. Un chrétien thermomètre, vous savez ce que c'est un thermomètre? Quand il fait chaud ici, et quand il fait froid, vous voyez, les sentiments, c'est un peu ça. Ça monte, ça descend. Un jour, on est en haut, un jour, on est en bas. Ne me parlez pas aujourd'hui. Quand on arrive, on dit bonjour à personne. Aujourd'hui, on ne va pas. Ça ne va pas. Et pourtant, on a les cheveux blancs. Qu'un enfant fasse ça, vous êtes d'accord avec moi? Allez, reste tranquille. Un enfant, d'accord. Mais quand on a des cheveux blancs et qu'on commence à faire comme un enfant, c'est ce que Paul voulait dire. Non, non, c'est fini. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, tu es un homme. Le chrétien thermomètre, quand tout va bien, alléluia, la moindre opposition, difficulté, incompréhension, et puis ça va vite, hein. Ah, ça va très vite. Ils montent très vite et ils descendent très vite. Ils sont toujours pressés, ceux-là. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui est influençable, n'est-ce pas vrai? Voilà, l'extérieur, toujours. Il suffit que quelque chose à l'extérieur soit les enthousiastes, et puis bon, ça y est, vous ne pouvez plus les arrêter. Ou alors c'est quelque chose qui les bloque complètement. Voilà, un enfant, c'est ça. Est-ce que vous pouvez travailler avec quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut travailler? Vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas confier quelque chose à quelqu'un comme ça, ce n'est pas possible. Le travail sera toujours bloqué. Alors, il faut toujours débloquer la personne, il faut toujours la débloquer. T'es encore bloqué? Bon, mais j'ai pris l'habitude, maintenant, il faut que j'ai les clés avec moi. T'es encore bloqué? Bon, ben, je vais venir te débloquer. C'est pour cela que parfois, Dieu ne peut pas vraiment nous utiliser. Un jour en haut, un jour en bas, un jour content, le lendemain, c'est la dépression même. Vous voyez où c'est des extrêmes, on passe d'un extrême à l'autre. On doit tous veiller. Un chrétien thermostat. Vous avez déjà tiré la leçon. Un thermostat, ça sert à quoi? Voilà. À maintenir la même température. Quand il fait froid ou quand il fait chaud, le thermostat, il maintient la même température. Autrement dit, le thermostat n'est pas influencé par l'extérieur. C'est le thermostat qui influence l'extérieur. Un chrétien thermostat, c'est un chrétien adulte. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse quoi que ce soit, toujours à la même température. Alléluia. Voilà. Soyez des hommes. Mais rien que ça, mes amis, c'est un témoignage extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait partie du témoignage. Ça fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et il faut travailler à ces choses. Il ne faut pas dire, ah ben oui, bon d'accord, bon, ah oui, oui, j'ai compris quelque chose. Bon, je vais prier le Seigneur pour qu'il fasse ça. Mais tu peux prier sans s'éteindre. À Dieu le pouvoir, c'est vrai, mais à toi le vouloir. Et j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens de ce côté-là n'ont pas saisi cela. Ils sont toujours en train de demander à Dieu de faire quelque chose. Mais dites-moi, il doit être sourd, le Seigneur, puisqu'il ne le fait pas souvent. Vous êtes en train de demander des choses, mais il ne les fait pas. Pourquoi? Mais est-ce qu'il est en vacances, le Seigneur? J'ai l'impression que c'est nous qui sommes en vacances. Voyez-vous, on demande, on demande, on demande. Comme si tout dépendait du Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Christ, nous dit la Bible. À lui le pouvoir, c'est vrai. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer. C'est vrai. Ça, c'est certain. Mais vous n'êtes pas des marionnettes, on est des ouvriers. Ça veut dire qu'à lui le pouvoir, mais à vous le vouloir. Vous dites, Seigneur, je veux changer. Je vais changer dans tel ou tel domaine que tu me montres ce matin. Je veux changer. Bien sûr, avec ton aide, avec ton secours, mais je veux le faire. Et je veux prendre les dispositions nécessaires pour que ça change. Si vous ne prenez pas ces dispositions-là, mes amis, le plus beau sermon ne vous changera jamais. Et vous pouvez continuer de prier, Seigneur, change-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Ben, il ne fait pas grand-chose, Seigneur. Mais tu pourras prier sans s'éteindre encore. Et beaucoup n'ont pas encore compris cette vérité spirituelle. À Dieu le pouvoir, mais à nous le vouloir. Si tu veux que Dieu agisse, tu dois agir toi-même. Tu dois faire le premier pas. Tu dois vouloir que ça change. Et ensuite, Dieu te changera. Mais Dieu ne te changera jamais contre ta volonté. Jamais. Voilà pourquoi certains sont stationnaires et n'avancent pas. Toujours, Seigneur. Ils attendent que le Seigneur fasse. Mais tu peux encore entendre 107 ans. Et rien ne changera. Le vouloir. Tu dois prendre des décisions. Mais malheureusement, certains chrétiens ont pris la décision de ne jamais rien décider. Ils se décident de ne rien décider. Et c'est là la tragédie. Ils se décident de ne rien décider. Soyez des hommes. Le Seigneur veut que nous grandissions. Parce qu'il veut nous confier toujours une tâche. Mais à un enfant, est-ce qu'on peut confier des choses? Non. Un jour, ça va, le lendemain, il n'y a plus rien. Un chrétien thermostat. Puissions-nous tous être ces chrétiens-là, qui refusent de se laisser influencer par l'extérieur, par les sentiments, par les apparences, par les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent influencer ta foi, c'est ta foi qui doit influencer les circonstances. Alors le chrétien adulte marche par la foi. Mon juste vivra par la foi, non pas par les sentiments. Dieu ne manque jamais de faire sa part, mes amis. C'est nous qui manquons souvent de faire la nôtre. Mais n'accusons pas le Seigneur de ne pas faire certaines choses quand nous ne faisons pas notre part. Et beaucoup de chrétiens, je le remarque constamment, sont toujours en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Et eux ne font rien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. À Dieu le pouvoir et à nous le vouloir. Un troisième test. Il pleure pour réclamer ce qu'il veut. Un enfant pleure pour réclamer ce qu'il veut. Ça, c'est une autre réaction enfantine. Quand l'enfant veut quelque chose, il commence à pleurer, à réagir, à dire... C'est pourquoi il y a bien souvent des larmes de crocodile que nous pouvons verser. Bien souvent, nos larmes ne reflètent que cet esprit un peu d'enfant. Et le Seigneur qui nous aime ne s'arrête pas à cela. Il veut que nous grandissions. Et il ne s'arrête pas à certaines de nos larmes qui ne révèlent qu'une mentalité d'enfant. Heureusement que le Seigneur n'exauce pas toutes nos prières. Amen. Si le Seigneur avait exaucé toutes vos prières, vous ne seriez pas là, et moi non plus. Si le Seigneur avait exaucé toutes vos prières, tous vos cris, toutes vos larmes, tout ça, vous ne seriez pas là. Et l'enfant insiste, non. Et bien souvent, nous nous entêtons aussi. Seigneur. Ah bon? C'est quoi? Qui est le Seigneur? Le Seigneur est devenu un serviteur et nous sommes devenus les maîtres. C'est nous qui commandons le Seigneur maintenant. Il ne faut pas se tromper de rôle. Toi, moi, j'ai le rôle de serviteur, c'est lui le maître. Nous devons faire sa volonté et non lui la nôtre. Ah bon? Ah ouais? De sûr? Bon. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Nous ne sommes que des serviteurs. Et c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Peu importe nos larmes, nos cris, le Seigneur ne se laissera pas influencer par tout cela. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce ne sont pas ni nos cris, ni nos larmes qui changeront quelque chose lorsque nous sommes déterminés à faire sa volonté. Alors, les choses commenceront à changer. Amen. Quatrième test, il est accapareur, il prend tout le temps des autres. Un enfant est accapareur, il prend tout le temps des autres. Avez-vous remarqué certaines personnes, si vous n'arrêtez pas de discuter avec elles, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça continuerait. De temps en temps, on fait ça pour lui montrer un peu que... Ça fait 2 heures qu'on discute. Moi, je n'ai pas placé un mot. Il est accapareur. Il prend tout le temps des autres. Mes amis, ça, ça manifeste un état d'enfant, un raisonnement d'enfant, un comportement d'enfant. Ou encore là, on ne pense qu'à soi et on est le centre de notre vie. Et on veut être au centre même de la vie des autres. Et puis en plus de ça, quand ils ne nous écoutent pas pendant 2 heures, on dit qu'ils manquent d'amour. On a toujours des prétextes pour s'en sortir, vous savez. Tu ne m'as pas écouté là. Ça fait 3 heures que je te parle, mais tu ne m'as pas écouté 3 heures. Tu manques de foi. Tu devrais un peu réviser tes positions. Mais lui, il ne pense pas qu'il devrait réviser les siennes. Quand il ouvre la bouche, ça y est, tout le monde doit écouter. Silence. Et puis c'est parti. Allez, la machine est partie. Un enfant, c'est ça. Un enfant accapareur. Il n'y a plus de limite, voyez, il n'y a plus de limite. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a rien. Bon, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, c'est mal. Mais il n'y a pas d'équilibre. Ça commence bien, ça finit mal. Ou ça commence mal, ça finit bien, mais pas toujours. Enfin, c'est tout un mélange. Et après, vous ne savez plus ce qu'il faut retenir. Vous en avez la tête pleine comme ça. Non, non. Cinquième test. Il a un esprit de contradiction, un enfant. Vous lui dites quelque chose, il ne lui plaît pas. Non, pas d'accord. Non. Il n'a même pas réfléchi à ce qu'on vient de dire. C'est la contradiction. Quand il faut dire oui, c'est toujours non. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand il faut dire non, c'est toujours oui. L'enfant, c'est ça. Il vous contredit tout le temps. Mais il y a certains chrétiens, c'est ça. Vous leur dites quelque chose. Non! Ils n'ont même pas réfléchi. Ils vous contredisent continuellement. Il y a vraiment un esprit de contradiction qui est là. Et on ne peut jamais leur dire quoi que ce soit. Un esprit de contradiction. Automatique. Voilà, laissez les réactions tout de suite. Et on ne va pas écouter. Parce que ça ne nous arrange pas. Si on écoute un peu, il faudrait qu'on change. Alors ça ne nous intéresse pas de changer. Et quand on a tort, on ne veut surtout pas montrer qu'on a tort. Alors non, on est le contraire. On s'oppose. On dit non. Voilà. Et pour tout cela, pour cacher quelque chose que nous ne voulons pas mettre en ordre d'une manière ou d'une autre, par une parole ou autre qui est vraie et que nous ne voulons pas appliquer dans notre vie. Esprit de contradiction. Et un homme adulte a plutôt un esprit de compréhension, il sait écouter. Et changer quand il faut changer. Il sait le faire. Il a cette maturité-là. Pour pouvoir changer quand il faut changer. Mais un enfant, rien. Entêté, terminé. Il ne peut plus rien faire. Certains chrétiens sont comme ça. Pouf. Non, 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 non. Et pourtant, ils savent qu'au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Qui devrait changer. Mais ils s'entêtent toujours. Ils s'entêtent. Ah, c'est l'autre! Ah ben l'autre, il y a peut-être quelque chose, mais toi. Ah, c'est jamais là, c'est jamais nous, c'est toujours. Non, on ne s'en sort pas. Un autre test, un enfant ne supporte pas la souffrance. Quand les choses deviennent trop difficiles, un enfant commence à... Vous ne pouvez pas tout lui dire, n'est-ce pas vrai? Un enfant... Vous ne pouvez pas vous ouvrir à l'enfant et dire « Oh, tu sais, mon fils, ma vie, oh là, oh, tu sais tout ça. » Vous pouvez lui dire tout ça? Non, l'enfant va perdre la tête complètement. Un enfant ne supporte pas la souffrance. Mais un homme doit être capable de supporter la souffrance, quelle qu'elle soit. Ça, c'est un signe aussi de maturité. Est-ce que la moindre contrariété, la moindre souffrance fait que on perd les pédales, on n'est plus les mêmes, on change, on boude? Parce que finalement, au fond de nous-mêmes, on ne veut pas porter notre croix et suivre le Seigneur. De plus en plus, nous entendons un évangile sans croix maintenant. Un évangile sans la croix. Est-ce encore l'évangile ? Un évangile sans croix n'est plus le véritable évangile. Ne l'oublions pas, mes amis. Il ne supporte pas la souffrance. Comme je le dis souvent, nous devons être des chrétiens alléluia, mais pas seulement alléluia. Nous devons être aussi des chrétiens amen. Moi, je suis un chrétien alléluia. Je vois que, comme vous louez bien le Seigneur, vous êtes aussi des chrétiens alléluia, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être un chrétien amen. Et amen, vous savez ce que ça veut dire. Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est donc la croix. Peu importe le chemin, peu importe la souffrance, je te suivrai. Et si on a le ces deux choses, alléluia, amen, alors on est sur nos deux pieds et on avance. Alléluia, amen, alléluia, amen. Mais si vous n'êtes qu'un chrétien, alléluia, 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 alléluia. Il y en a qui se cassent le nez, même en étant des chrétiens, alléluia, c'est pas suffisant. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, je l'ai fait exprès, là. Chrétien, alléluia. C'est magnifique. Mais il faut aussi être un chrétien, amen. L'enfant refuse la souffrance. Il refuse de dire amen. Quand les choses commencent à... quand le feu commence à chauffer un petit peu. Quand on sent la fournaise. C'est là qu'on voit qui vous êtes vraiment. C'est pas quand tout va bien que vous révélez qui vous êtes, mes amis. Vous ne révélez rien du tout. Mais c'est quand le feu est là, l'adversité est là, la fournaise est là, que vous savez à qui vous avez affaire. Chrétien, alléluia, oui. Mais chrétien, amen. Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Mais Seigneur, amen. Même quand les choses ne vont pas comme je pense, comme je le voudrais. Amen, Seigneur. Peu importe. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout avec toi. J'irai jusqu'au bout. Soyez des hommes. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. C'est l'équilibre parfait. Et un chrétien comme cela peut aller loin. Mais si nous ne marchons que sur un pied, vous pouvez être un chrétien, amen, faire la volonté de Dieu, mais si vous n'avez pas cet esprit aussi de louange, d'adoration, qui fait que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, eh bien là aussi, vous ne pourrez pas aller bien loin. Il faut les deux. Les deux sont indispensables. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Dans l'œuvre de Dieu, il vaut mieux avancer lentement, mais sûrement. Et qui va piano va sano, et qui va sano va lontano. Ça c'est pour ceux qui savent l'italien. Mais moi c'est tout ce que je sais en italien. J'en dirai pas plus. Buongiorno, c'est tout. Un pace. Voilà, c'est tout. Mais vous avez su? Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Vous avez deviné ce que c'était. Qui va lentement va sûrement, et qui va sûrement va loin. Va longtemps. Va loin. Dans l'œuvre de Dieu, il vaut mieux avancer lentement que d'avancer comme une fusée, là, d'un seul coup. Certains chrétiens, c'est de véritables fusées. Doum, 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 doum. Mais la fusée, ça ne va pas loin. Autant ils vont vite, autant ils tombent vite. Qui va piano, va sano. Qui va lentement, va sûrement. Et qui va sûrement, va loin. Le lièvre et la tortue. Finalement, c'est la tortue qui a gagné. Et le lièvre, c'est un petit malin. C'est rien pour moi, c'est rien. Alors il va brouter par-ci, par-là. Allez, là. Le lièvre, voilà. Oh, oh, oh. Le lièvre se moque même de la tortue. Allez, 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 plus vite que ça, plus vite que ça. Et il est tellement dansé, oh, s'amuser que la ligne d'arrivée était là. Et la tortue a passé avant le lièvre. Il ne peut supporter la souffrance. Il nous faut utiliser la souffrance, les difficultés, l'adversité pour aller de l'avant. Quelqu'un dit un jour, celui qui avance à genoux ne recule jamais. Celui qui avance à genoux ne recule jamais. Un autre test. Un enfant fait le travail qui lui plaît. Vous avez remarqué cela? Ça aussi, ça dénote vraiment la mentalité d'un enfant. Il fait le travail qui lui plaît. Si vous lui demandez un travail qui ne lui plaît pas, alors là, vous ne pouvez rien lui faire faire. Rien, rien, rien. Mais un homme, un adulte, comme il fait tout pour la gloire de Dieu, peu importe ce que vous lui demandez, il est prêt à le faire. Parce que ce ne sont plus ses intérêts qui sont en jeu, mais les intérêts du Seigneur et la gloire de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, il est prêt. Le but du Seigneur, c'est de nous apprendre l'obéissance. Et pour nous apprendre l'obéissance, il veut que nous apprenions à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Et quand je le fais pour obéir, pour plaire au Seigneur, alors c'est cela qui glorifie Dieu. Et c'est cela aussi qui fait de moi une personne adulte et non plus un enfant. C'est là que je prouve que je suis mature en obéissant quand ça ne me plaît pas. Mais si j'obéis seulement quand ça me plaît, ce n'est pas de l'obéissance. Tu penses obéir, mais finalement tu n'as pas encore appris ce qu'est la vraie obéissance. Encore une fois, la vraie obéissance, c'est de dire non pas ce que je veux ou ce qui me plaît, mais ce que tu veux et ce qui te plaît. Alors voyez-vous, il y a des belles leçons dans tout cela. Ne faisons pas toujours le travail qui nous plaît. Apprenons aussi à obéir, même quand ça ne nous plaît pas. Parce que c'est là que Dieu vous teste. On vous donne un travail, mais c'est pas l'homme qui vous donne un travail. C'est Dieu qui vous teste au travers de tout cela. C'est Dieu qui vous teste. Sans le savoir même. Vous ne pensez pas à ça, mais Dieu pense à cela. Et quand on fait quelque chose, on doit toujours le faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà. Tout faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. J'ai noté ici un autre test. Un enfant travaille toujours pour se vanter, pour se glorifier, pour se vanter. Dès qu'un enfant fait quelque chose, ça y est, c'est le meilleur de tous. Et puis il commence à se comparer à ses frères et sœurs. Toi, non, c'est rien. Moi, ce que j'ai fait, c'est mieux. Ah, voilà. Un enfant travaille toujours pour se vanter. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire qu'il est meilleur que l'autre, que l'autre n'était rien du tout. Et tout. Voilà. Il ne pense qu'à lui. Comment est-ce que nous travaillons pour le Seigneur? Ce n'est pas le tout de travailler pour le Seigneur. Il faut travailler encore dans un bon esprit, n'est-ce pas vrai? Il faut travailler comme des adultes. On ne travaille pas pour se vanter, mais on travaille pour glorifier le Seigneur. Amen. Et il faut que ce soit une pensée précise au fond de notre cœur. On ne doit pas utiliser le travail qu'on fait pour se faire un nom, pour se faire un titre, pour se faire une réputation. On n'est pas là pour cela. On est là pour la gloire de Dieu. Dieu est Dieu. Et il ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. On ne joue jamais avec la gloire de Dieu, mes amis. Mais l'enfant, lui, elle est là. Tout pour se vanter. Tout pour montrer qu'il est là. Et vous m'avez vu ou quoi? J'ai l'impression que tu ne m'as pas vu. J'ai des cartes de visite, je vais t'en donner une à la sortie. Médite un peu sur ma carte de visite. Tu ne vois pas tous les titres qu'il y a? Rien qu'en faisant cela, tout est gâché. Même si on fait un beau travail, tout est gâché. Il y a quelque chose qui est terni. Il y a quelque chose qui a été sali, souillé. C'est l'œuvre de Dieu, mes amis. Ceux qui font l'œuvre de Dieu doivent avoir les mains pures. Et tout doit être pour la seule gloire de Dieu. On n'est pas là pour une compétition, vous êtes d'accord? On n'est pas là pour se comparer l'un à l'autre. Moi, je suis meilleur que toi. Toi, tu n'as rien du tout. Toi, rien. Toi, c'est un petit, moi, un grand travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce qui est fait pour le Seigneur est grand. La plus petite chose que l'on fait pour le Seigneur est grande. Et la plus grande chose que l'on peut faire et qu'on ne fait pas pour le Seigneur est petite aux yeux de Dieu. Même si c'est grand, si ce n'est pas fait pour lui, c'est très petit, très très petit. Et puis j'ai un autre test encore, un enfant. Il veut toujours ce que l'autre possède. Avez-vous remarqué ça? Vous lui achetez un jouet, tout bien. À peine qu'il a vu le jouet, il regarde là-bas à côté. Le frère, la soeur. Oh, mon papa, maman, c'est ça que je voulais. Et puis ça y est, son jouet, complètement mis de côté. Non, c'est ça que je veux. Et même si vous lui le donnez, au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien du tout. C'est encore l'autre. Il veut toujours ce que l'autre possède. Et là, il y a une leçon importante. Et bien souvent, nous ne sommes pas contents de ce que Dieu nous a donné, des talents que Dieu nous a donnés. Et on jalouse le talent de l'autre. Oh, l'autre, il chante bien, il prie bien, il parle bien. L'autre, il a tel talent. Moi, Seigneur, rien. Et on a, Seigneur, celui-là, vraiment, si je pouvais être comme lui. Oh, ça serait... Et on dévalorise le talent que Dieu nous a donné. Et nous oublions qu'il y a une grande vérité, principe spirituel dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne te donnera jamais un autre talent si tu n'apprécies pas et si tu ne mets pas en pratique le talent que Dieu t'a donné. À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, cessons. Oh Seigneur. Et on ne fait rien pendant ce temps-là. Puisqu'on veut le talent de l'autre, on est toujours là. On est là. À gauche, à droite tout le temps. Et son talent, rien. Il ne vaut rien, c'est pas grand-chose. Le talent de l'autre, c'est toujours quelque chose. Mais l'autre, rien. Il faut prendre un microscope pour regarder mon talent. Où il est? On ne sait même pas où il est. On le cherche. Tu as un talent. Tu as un talent. Ne le méprise pas, mon frère. Ne le méprise pas. Cesse de regarder autour de toi. Si Dieu t'a donné ce talent-là, c'est que c'est ce talent qui te convient, le plus. Si tu avais le talent de l'autre, cela pourrait t'enorgueillir ou cela pourrait te détruire. Dieu sait exactement, c'est un sage architecte, c'est le maître admirable. Il connaît ses enfants et il donne selon les capacités, les possibilités de l'un ou de l'autre. Mais ne commence pas à jalouser, à vouloir ce que l'autre a et à négliger ce que Dieu t'a donné. Et nous pouvons passer tout notre temps, mes amis, nos années, à demander à Dieu quelque chose qu'on a vu chez l'autre. Et puis, Seigneur, c'est ce talent que je voudrais. Et celui qu'on a, on l'a enterré. Vous savez que certaines églises peuvent devenir des cimetières. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils enterrent tous leurs talents. Certaines églises peuvent devenir des cimetières parce que tous enterrent leurs talents. Tout le monde a enterré son talent. C'est devenu un cimetière. Tu enterres ton talent. L'autre enterre son talent. L'autre enterre son talent. C'est plus une église, c'est un cimetière. C'est une façon un peu humoristique de le dire. Mais c'est la réalité. Et une fois... Et vous savez, quand celui qui avait reçu un talent, vous savez, le Seigneur a plus de problèmes avec celui qui a un talent qu'avec ceux qui ont 2 ou 5 talents. Vous savez que celui qui pense n'avoir qu'un talent, que le Seigneur a été le plus sévère. Il a pris son talent, ou une mine aussi, dans un autre passage, dans une autre parabole, c'est une mine. Il est allé enterrer sa mine. Et voilà pourquoi il a une mine d'enterrement. Si tu enterres ta mine, c'est pas étonnant que tu aies une mine d'enterrement. Et c'est vrai, si tu enterres ta mine, automatiquement ces gens-là ne sont pas heureux, n'est-ce pas vrai? Tu n'es pas heureux, tu as une mine d'enterrement. Alors au lieu de demander au Seigneur d'autres dons, va déterrer ton talent. Va vite là-bas où tu l'as enterré. Sors-le de terre, nettoie tout ça et mets en pratique ce que Dieu t'a donné. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. Et vous savez, dans le texte grec, c'est celui qui est fidèle dans les plus petites choses. Ce n'est pas seulement dans les petites choses. Dans les plus petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. Et c'est vrai. Quand vous voyez quelqu'un qui est fidèle dans les plus petites choses, il mérite celui-là qu'on lui confie des plus grandes. Il le mérite. Parce qu'il a été fidèle dans les plus petites choses. Dieu l'a testé là. Et vous savez, Dieu vous observe, Dieu m'observe, mes amis. Il nous observe tous pour voir comment nous réagissons à ces petites choses de la vie ou qu'on nous confie. Dieu nous observe. Peut-être que les autres ne te voient pas, mais il y en a un qui te voit. C'est le Seigneur. Et il te teste. Et il te dit, si tu es fidèle dans les plus petites choses, je te confierai des plus grandes. Il le fera. Mais seulement si tu es fidèle dans les plus petites choses. Et celui qui l'est, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on lui confie des plus grandes. Parce qu'il fera les grandes choses avec autant de fidélité qu'il a fait les petites choses. Amen. Alors, allez déterrer votre talent. Ne cherchez pas le talent de l'autre. Moi, je me souviens au début, c'est vrai, quand on se convertit, j'ai lu des biographies, on lit les biographies, n'est-ce pas? Alors, on voit les géants de la foi, Hudson Taylor, Charles Studd, tout cela. On veut être comme eux. Hein. Mais finalement, ça te décourage aussi. Au début, tu lis, ça te fait du bien, mais après, tu dis, mais... Lui, c'est ça, et puis moi, je suis un petit minuscule. Que jamais je vais y arriver. Et voyez, on se compare. On peut s'inspirer des autres, d'accord. S'inspirer est une chose, mais se comparer, ça c'est mauvais. Les héros de la foi sont là pour qu'on s'inspire, c'est vrai. Mais pas pour qu'on fasse exactement comme eux. Parce que chacun a un talent à part. Donc la comparaison est tout à fait nocive, nuisible. Arrête de te comparer. Dieu t'a donné un beau talent. Arrête. Et vous dites, ah oui, mais écoutez-moi, moi je n'ai pas de talent. Ah, t'as rien? T'as même pas un talent? Ah bon? Alors si tu n'as pas un talent, c'est que tu n'es pas converti. Ah oui, non! Mais moi je suis converti! Si tu es converti, tu as au moins un talent. Si tu dis que tu n'as pas de talent, c'est que tu n'es pas converti. Mais si je suis converti, ah ben d'accord, je vais bien le croire, je ne vais pas douter. Alors si tu es converti, ne dis plus que tu n'as pas de talent. Tu en as au moins un. C'est toi que tu dois changer. Tu dois cesser de dire que je n'ai rien. Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi, quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a au moins un talent. Lequel? C'est toi qui le sais. Et tu dois mettre en pratique là où tu sembles le plus libre à faire quelque chose. Tu le sais, fais-le. Mais ne dis jamais que tu n'as rien. Parce que dire qu'on n'a rien, ce n'est pas une question d'humilité. Vous savez, certains disant, moi j'ai rien et tout, en pensant faire les humbles. Oh, moi j'ai rien. Oui, ils sont humbles. J'ai rien. Oh, j'ai rien. Comment? Ce n'est pas une question d'humilité, ça. C'est une question d'incrédulité. Tu ne révèles pas ton humilité, là. C'est ton incrédulité que tu révèles. Il ne faut pas te tromper. Ah, moi, je n'ai rien. Non, non, non. C'est de l'incrédulité que tu révèles. Et un jour, quand nous nous présenterons devant le Seigneur, écoutez-moi bien, mes amis, qui que nous soyons ici, le Seigneur va dire, qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Et là, il n'est plus question de dire, oh Seigneur, mais j'en avais pas. Comment t'en avais pas? Mais Seigneur, il y a l'autre là-bas. Comment? Je te répète la question, je vois que tu es sourd. Qu'as-tu fait de ton talent? Je ne te parle pas des talents des autres maintenant. Les autres, c'est mon affaire, c'est pas ton affaire. Tu n'es pas là pour juger les autres maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici?
Ah, tu veux encore maintenant faire mon travail ici en haut? Sur la terre, t'as pas voulu faire ton travail, tu veux faire mon travail dans le ciel? Mais t'en as du tout près, toi! Qu'as-tu fait de ton talent?
Et écoutez-moi bien, mes amis, le Seigneur posera cette question à chacun d'entre nous. Sans exception, ce n'est pas seulement aux pasteurs, aux prédicateurs, aux missionnaires, évangélistes et tout ça. Non, non, mes amis, chacun d'entre nous. Pensez bien à cela. Ne dites pas, vous n'avez rien, ça c'est de l'incrédulité. Il est dit dans la parabole que le Seigneur a donné à chacun selon sa capacité. Avez-vous remarqué? C'est selon sa capacité. Donc aux yeux de Dieu, même celui qui a un talent est capable. À chacun selon sa capacité. 1, 2 et 5 talents. Tous sont capables. Même celui qui a un seul talent. Voyez-vous, aux yeux du Seigneur, si nous sommes à lui, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes de nouvelles créatures. Il n'y a pas d'incapable. Encore une fois, à lui le pouvoir, mais à nous le vouloir. Qu'allez-vous répondre ce jour-là? Qu'allez-vous répondre ce jour-là? Puissions-nous, aujourd'hui, dès maintenant, dire « Seigneur, je veux déterrer mon talent, je veux arrêter de vouloir ce que l'autre possède. » Souvent, on n'est pas content, on voudrait toujours le don de l'autre. Ça, c'est un enfant, c'est un état d'enfance spirituelle. Mets en pratique ce que Dieu t'a donné, humblement, fidèlement, là où tu es, fais-le. Et tu verras ton cœur se réjouir, le Saint-Esprit vibrer en toi, et tu réjouiras ton Père Céleste. Fais-le. Fais-le pour le Seigneur, pour sa gloire. Tu as reçu un talent. Mets-le en pratique. Tu l'as reçu. Tu peux prier le Seigneur pour qu'il te montre ce qu'il ne va pas. Mais il ne va pas attendre longtemps. Et même si tu penses n'avoir rien, fais quelque chose pour le Seigneur. Moi, j'ai remarqué une chose. Je pensais n'avoir rien du tout. Mais c'est dans l'action que souvent on réalise le talent que Dieu nous a donné. Nous étions missionnaires en Afrique. Juste un exemple pour montrer que cet exemple-là, c'est ce qui m'a montré que le Seigneur avait fait quelque chose dans ma vie et que je ne savais pas. Mais dans l'obéissance, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. La mission où nous étions, au Centrafrique, nous avait demandé à mon épouse et à moi d'aller au Tchad, c'est tout près, c'est le pays à côté, pour aller donner pour aller prêcher l'évangile, enfin l'évangile, faire un camp de jeunes, enseigner les jeunes chrétiens pendant l'été. Et alors là, j'allais presque dire au directeur du... J'avais jamais fait ça. Aller enseigner pendant une semaine des jeunes dans un camp, je ne l'avais jamais fait. Tout de suite, j'ai eu la réaction. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je réponds? Je lui ai dit, mais j'ai jamais fait ça. Non, prenez quelqu'un d'autre. J'allais presque le faire. Si au bout du message d'une heure, j'ai tout dit, tout ce que j'avais préparé pendant une semaine, c'est fichu. Après, c'était terminé. Bon, ça sera la catastrophe. C'est là que j'ai vu que je me suis bien préparé. Je me souviens, c'était sur Néhémie que j'avais parlé. Les qualités de Néhémie, les ennemis de Néhémie, vous voyez, tout ça. Là, j'avais bien préparé tout ça. Mais à la première réunion, j'avais l'impression d'avoir tout dit déjà. Après, j'ai dit, Seigneur, maintenant, tu vois, il faut vraiment que tu m'aides parce que... Et les notes, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et il y a encore une semaine, là. Je sais pas comment ça va finir. Et pourtant, je me suis préparé, j'ai tout bien fait, hein, Seigneur. Alors, j'ai médité encore, j'ai repris certains points. J'ai dit, Seigneur, maintenant tu m'aides parce que... Et j'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé selon ce que le Seigneur me mettait dans mon cœur. Et à un moment donné, j'ai vu que je m'écoutais parler. Je parlais et je m'écoutais parler. Et même à un tel point que j'ai dit, tiens Sam, c'est intéressant ce que tu dis là. J'avais jamais pensé à ce que je disais là. Je dis, c'est intéressant. Continue, continue. Et ça a été comme un fleuve qui a coulé. La réunion s'est terminée. C'était magnifique.
La prochaine réunion, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides, parce qu'alors, pour moi, c'est la catastrophe. Vraiment que tu m'aides. Et j'ai vu par là que la deuxième réunion, ça a été la même expérience. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donc aussi donné quelque chose là. Et c'est pour cela que, après, quand on m'a donné des invitations, quand on est rentré en France, en Suisse, j'ai dit, Seigneur, quand on m'invitera, eh bien, j'irai. Parce que je n'avais jamais fait des missions et tout cela, j'étais tout jeune encore dans le ministère. À un tel point que, quand on est rentré de l'Afrique en Suisse, le pasteur d'une grande église à Genève téléphone, là j'étais chez les beaux-parents, donc près de Neuchâtel avec mon épouse, et me dit, Sam, tu veux venir faire une mission? C'était une grande église à Genève. On rentrait d'Afrique. J'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire dans la grande église, moi, missionnaire, petit, qu'est-ce que je vais pas m'en sortir? J'allais presque dire, écoutez, frère, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais pensez à quelqu'un d'autre. J'allais presque le dire, et là, le Seigneur m'a arrêté, et m'a fait penser à cette expérience en Afrique. Et j'ai dit, Seigneur, d'accord. Puis j'ai eu l'image du jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons, avec lequel le Seigneur a nourri une multitude. Et le Seigneur m'a dit, voilà, tu es comme 5 pains, tu as comme si tu avais 5 pains et 2 poissons. Eh bien, donne le peu que tu as, et moi je ferai le reste. Je remercie le Seigneur de ne pas avoir désobéi. Si j'avais regardé à moi-même, non, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Prends-en un autre. Mais j'ai obéi. Et le Seigneur m'a montré par là ce qu'il m'avait donné. Et je l'en bénis. Et c'est ainsi que, après, quand on avait des appels ou autres, eh bien j'y allais en comptant sur le Seigneur. Voyez-vous, c'est dans l'action. Si j'avais rien fait, si je n'avais pas été dans ce camp là-bas, jamais j'aurais expérimenté ça. Jamais je n'aurais vu la main du Seigneur. Et c'est là, ça a complètement changé mon ministère. J'ai vu que là, il y avait quelque chose. Donc, voilà. Alors, j'ai été dans cette direction-là. Et le Seigneur a béni, a continué de bénir. Et j'ai vu qu'avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir une multitude de personnes. La petitesse n'est pas une excuse, mes amis. Au contraire, Dieu utilise nos petits moyens pour se glorifier. C'est quand on est petit qu'il peut faire de grandes choses dans notre vie. Amen. Que le Seigneur soit béni. On peut encore un peu? Ça va? C'est l'heure? Encore un petit peu? Gloire au Seigneur. Et un autre test, il n'est pas persévérant. Et il commence un travail et ne le finit pas. Un enfant, c'est ça. Il commence un travail et ne le finit pas. Il n'est pas persévérant. Ça, c'est un enfant, toujours bien disposé, mais d'un seul coup, ça s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus envie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens qui disent « j'ai plus envie » ? Vous ne pouvez plus rien faire. Soyez des hommes. Maintenant, c'est fini. Dieu cherche des hommes à qui il peut confier quelque chose, qui commenceront quelque chose et qui finiront ce qu'ils ont commencé. J'ai achevé l'œuvre que le Père m'a donné d'accomplir. Et Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me sera réservée. J'ai achevé ma course. Un enfant, il n'achève rien. Il commence beaucoup de choses, mais il finit pas grand-chose. Sommes-nous comme cela? Avez-vous cette faiblesse-là? C'est cela un enfant. Il commence beaucoup de choses, mais il finit très peu de choses. Un homme, quand il commence, il va jusqu'au bout. Si vous avez cette qualité-là, Dieu vous utilisera et vous donnera une tâche pour aller jusqu'au bout. Amen. Il est persévérant. Rien ne l'arrête. Il peut être découragé. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas découragé. Qui n'a pas des moments de découragement? J'en ai eu. Vous en avez. Tout le monde peut avoir des moments de découragement. Mais l'important, c'est de toujours se relever et dire, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Je veux faire ce que tu me demandes. Achevons la tâche que Dieu nous a confiée. Un autre test. Il veut tout, tout de suite. Ça, c'est un enfant aussi. Tout. C'est le christianisme presse-bouton. Presse-bouton. Ou micro-ondes. Christianisme micro-ondes. On appuie. Faut ça, tout de suite. Il veut tout, tout de suite. Si ça ne va pas tout de suite, on abandonne. Il veut tout, tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. On veut un ministère tout de suite. Hein, vous avez déjà entendu ces prophéties sur certains. Un jeune converti, à peine converti. On prie. Le Seigneur te donne un ministère mondial. Tu vas traverser le monde. Ah bon? Jésus dit, commencez par les petites choses. Et là, d'un seul coup, il lui donne des grandes choses. C'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne finira pas dans un ministère mondial. Ce n'est pas ça du tout le problème. Ça peut, tant mieux pour lui. Ce n'est pas là le problème. Mais le Seigneur ne commence pas comme ça. Il ne commence pas par les grandes choses, il commence par les petites choses. Et la fidélité dans les petites choses. Voilà comment il commence. Sois fidèle dans les plus petites choses. Et je t'en confierai des plus grands. La patience, la persévérance, la patience. Les preuves de mon apostolat, dit Paul, se sont manifestées par une patience à toute épreuve et par des signes, des prodiges et des miracles. Vous avez vu, les miracles, ils viennent après la patience. Nous mettrait les miracles avant. Miracles, signes, prodiges avant. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Un vrai ministère, c'est celui qui a la patience et qui persévère jusqu'au bout. Parce qu'il y en a qui ont eu des miracles, mais maintenant il n'y a plus rien du tout, parce qu'ils n'ont pas de patience. Ils n'ont pas de persévérance. Et Dieu n'a pas pu aller jusqu'au bout avec eux. Même dans ce pays, il y a certainement des ministères qui ont bien commencé, mais maintenant il n'y a plus rien. Ils sont dans la nature, complètement perdus. Et pourtant, ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Mais il manquait cette qualité, la patience à toute épreuve. Ils ont mis les miracles avant le caractère de Christ, avant la patience, la persévérance. Et c'est pour cela que maintenant, ils sont sur une voie de garage. Mes amis, il ne faut pas se décourager si, dans le travail, il n'y a pas toujours les résultats tout de suite. Mais tôt ou tard, le Seigneur récompensera celui qui reste fidèle. Et il saura toujours récompenser au bon moment. Amen. Il saura le faire. Combien de fois on l'a vu quand on est des moments difficiles? Il y a l'opposition, la contradiction. Le Seigneur a toujours permis une lettre, un téléphone de l'un, de l'autre, d'une bénédiction par-ci, par-là. Ça y est, ça repartait. On a presque l'impression d'être abandonné de tous. Mais d'un seul coup, voilà, un télégramme qui vient du ciel. Un petit mot par-ci, par-là. C'est suffisant. Donc, il veut tout tout de suite. Ça, c'est un enfant. Quand tu mets la main à la charrue, il ne faut plus regarder en arrière. Il faut aller debout, droit, devant soi. Et persévérer jusqu'au bout, mes amis. Mais la récompense est au bout. Que personne ne se décourage ici. Que les échecs ne vous arrêtent pas. Qui n'a pas eu d'échecs? Utilisez vos échecs pour apprendre une leçon et pour aller de l'avant. Et pour faire mieux la prochaine fois. Utilisez vos échecs pour apprendre la leçon et pour faire mieux la prochaine fois. Et non pas, ah, ça va pas, ça va pas marcher, donc non, je ne ferai plus rien maintenant. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueilleux qui réagit comme ça. Mais celui qui est humble et qui veut plaire au Seigneur, dit, bon, ça n'a pas marché. Bon, je vais apprendre la leçon. Et je vais faire mieux la prochaine fois. Le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se relève. persévérant jusqu'au bout. Soyons déterminés, ayons une patience à toute épreuve. Certainement que le Seigneur pourra vous utiliser, nous utiliser pour sa gloire. J'abandonne ce qui est de l'enfant. Je ne raisonne plus comme un enfant. Soyez des hommes. Puissions-nous tous être des hommes qui glorifient le Seigneur dans nos vies et par nos vies. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tes instructions. Merci pour ton désir de nous voir grandir toujours plus, de mieux te refléter, mieux te ressembler et mieux accomplir l'œuvre que tu nous demandes. Non pas pendant un jour, deux jours, dix jours. Oui, les hommes cherchent de nouvelles méthodes, mais toi, tu cherches de nouveaux hommes. Des hommes mûrs, adultes, qui ont abandonné cette mentalité d'enfant et qui vivent comme des hommes pour te glorifier et pour être une bénédiction aux autres. Nous voici, Seigneur. Façonne-nous, transforme-nous, purifie-nous de tout ce qui est encore de l'enfant en nous. Nous voulons, Seigneur, le mettre de côté et te ressembler, te refléter. Pas seulement un jour, pas seulement deux jours, mais tous les jours, jusqu'à ton glorieux retour. Nous voici, prends nos vies, Seigneur, et façonne-les à ton image, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci, Seigneur.